Vous écoutez IDFM, il est midi.
Chers amis, bonjour, quelle joie, quelle chance de vous retrouver en ce samedi pour un nouveau numéro de Latitude Positive sur IDFM, la radio du bien-être. C'est Christophe Médici avec vous pour un nouveau numéro de l'émission. Et aujourd'hui, on va traiter d'un thème passionnant puisque j'ai eu envie, le printemps arrivant, les beaux jours arrivent, qu'on traite de... d'une activité humaine qui, vous allez voir, est beaucoup plus profonde qu'elle ne peut l'imaginer et qui peut vous faire un bien fou, qui s'appelle la marche. Et pour vous parler de ça, on a peut-être un des plus grands experts de cette pratique. Nous avons Alain Pénichaud avec nous. Bonjour Alain.
Bonjour Christophe.
Nous sommes ravis de vous accueillir. Alain, vous avez écrit ce magnifique livre aux collections Marie-Claire, L'art de la marche, éloge de la lenteur, c'est le sous-titre. D'abord, on va commencer tout de suite pour expliquer à nos auditeurs. Si je vous présente comme un thérapeute énergéticien spécialiste du bien-être, ça vous va, Alain ?
Oui, très bien. Je rajouterai artiste en même temps.
Oui, un côté de la patrie des poètes, comme dirait Cocteau.
Absolument.
Oui. Alors, Alain, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Êtes-vous marcheur vous-même ?
Absolument. Donc là, il y a encore 4-5 jours, j'étais en Normandie où je partage ma vie avec Paris. Et donc, je fais de longues balades seul, en pleine forêt. Et donc, je teste un peu tous les exercices que je propose ensuite au public lorsque j'organise des marches en forêt à peu près à une heure de Paris.
Et alors, c'est vrai que on peut se demander, parce que je sais que la marche est de plus en plus en vogue, n'est-ce pas, hein? Et on va voir, chers amis auditeurs, vous allez voir qu'Alain va nous présenter pas une marche, mais des marches, et toute une kyrielle de marches, et vous allez nous expliquer aussi dans pas mal de chapitres. J'ai adoré votre livre, Alain Pénichaud, hein, parce qu'il est très holistique, et en même temps, voilà, on voit plus que uniquement les techniques de marche basiques, c'est bien au-delà de ça, la marche, vous allez voir. Existe-t-il, peut-être que ma question est celle d'un béotien, plusieurs façons de marcher?
Absolument, parce que la marche est tout d'abord une démarche de l'esprit. Hein, vous savez, dans la Grèce antique, vous qui avez fait des études littéraires, les péripatéticiens, je veux dire, avec Aristote, donc marchaient pour penser. Hein, comme disait Nietzsche, le philosophe, on ne pense bien qu'avec ses pieds. Et quelque part, ce jeu de mots, enfin, cette phrase d'humour est très, très, très importante à retenir. C'est-à-dire que je compare mes pieds quand je marche comme si j'avais des mains sur le sol. C'est-à-dire que les pieds sont comme les mains. C'est-à-dire qu'on redonne à ses propres pieds, donc une forme de souplesse, de dextérité, mais surtout une forme de sensibilité avec le sol.
Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Alain, c'est que vous référez à la Grèce antique, effectivement, c'est que le péripatos, c'est là où le lycée, Aristote et tous les autres, voilà. Ça leur permettait d'être en marche et de mettre en mouvement leurs pensées, leurs
tout
idées.
C'est
comme ça que de nouvelles idées arrivaient à l'esprit.
Et c'est vrai que lorsque vous marchez, et les gens peuvent le comprendre, les gens qui ont l'habitude de marcher, on peut passer parfois dans le passé, on peut passer parfois dans le futur, et en fait tous les exercices vont nous permettre de rester dans le présent, c'est-à-dire on va développer une forme d'attention au présent à travers la respiration, à travers parfois des mouvements avec les mains qui vont nous permettre vraiment de créer cet alignement entre le corps, le cœur et l'esprit.
Alors, c'était très intéressant parce que, en préparant cette émission, et chers amis auditeurs, ça vous rappelait des souvenirs, vous parliez du passé, donc de la nostalgie aussi. On se rappelle du titre d'un film qu'avait joué magnifiquement le regretté Patrick Devers, dont le titre était La meilleure façon de marcher. Et ça se passait dans le milieu des colonies de vacances. Et alors, j'ai, moi, des souvenirs, comme beaucoup d'entre vous, chers amis auditeurs, certainement, de colonies de vacances, surtout quand on est d'âge d'école primaire, hein, ou même jeune préado. Ou c'est une, comme dirait Cyril Hanouna, une tanasse de faire une rando, et que à chaque fois que les animateurs voulaient nous faire une randonnée, donc de la marche à la Pénichaud, ça nous saoulait. Alors c'est certainement pas le cas chez les louveteaux et chez les ceux qui sont travaillent, on les appelle les louveteaux, c'est la...
Oui, c'est les scouts.
Les scouts. Les scouts. Mais pourquoi à la Pénichaud, un enfant ou quelqu'un de 12, 13 ans, Ils détestent
la randonnée. C'est une histoire de motivation. J'ai eu la chance d'accompagner des ados. Je suis animateur socioculturel, comme on disait. Donc, j'ai accompagné les enfants, les ados, les adultes et ensuite les seniors. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais proposé un projet qui était sur l'itinéraire de Stevenson, donc à Dodane, dans les Cévennes. Donc j'avais loué les ânes et j'ai emmené
c'était
un
c'était avant que le film sorte. Parce que vous savez qu'il y a un magnifique film qui est sorti il y a 2 ans là-dessus.
Ah non.
Avec Laure Calamy. Elle a même eu de très près des promos.
C'était dans les années 90. Oh,
oui, mais là, ce film a cartonné. Et justement, elle reprend le pas de Stevenson. Et,
ah, bien sûr. Et super,
c'est parce que ce c'est d'ailleurs proposé, ça. Hein,
oui, oui, bien sûr. C'est un itinéraire qui est très balisé.
Vous l'avez fait, ça, alors?
Oui, je l'ai fait avec un groupe d'ados. Et en fait, si vous voulez, c'était alors au départ le projet pédagogique c'était de faire des actes et en rapport avec le livre il fallait qu'ils aient lu le livre et donc on commentait un petit peu l'actualisation de ce que ressentaient les ados en rapport avec le livre avec Modestine qui était son âne, sa mule et qui portait les bagages.
Ouais.
Et voilà, donc ça s'est pas déroulé comme cela, et donc durant le séjour où j'avais à peu près une dizaine d'ados, parce que j'avais trop de monde, et donc nous étions deux, mais j'étais avec quelqu'un de très jeune, et donc en fait l'idée c'était un peu ça, c'est-à-dire vraiment de comprendre à quel point la marche, surtout pour des ados, peut permettre à un moment donné de comprendre le sens de l'effort à travers un itinéraire, et surtout une forme d'empathie pour les ânes que je respecte
énormément.
Mais on
était dans quelles années? Vers les années 80-90?
Oui, 80-90.
Donc c'est intéressant dans ce que vous dites, Alain Pénichaud, moi qui suis l'auteur d'Homo Connecticus, c'est que les jeunes de cette époque-là sont pas encore des digital natives. C'est-à-dire qu'on est avant l'ère d'Internet.
Tout à fait.
Aujourd'hui, si vous voulez amener votre enfant en enfer et votre ado en enfer, vous l'amenez dans une zone blanche. Je veux dire, vous amenez votre ado dans une zone blanche, il tue son père et sa mère. Je vois le réalisateur mort de rire. J'ai les enfants d'aujourd'hui, sinon pas leurs écrans, c'est l'enfer pour eux.
Tout à fait.
Et donc, ce qui veut dire que, parce que vous répondez pas à 100% à ma question, vous trouvez un contre-exemple où ça s'est visiblement bien passé. Je pense que beaucoup de nos auditeurs qui sont des digital migrants comme nous autour de cette table, on est né alors qu'Internet n'existait pas. De plus, nous avons passé notre enfance, voire notre adolescence alors qu'Internet n'existait pas. Eh bien, quand on faisait des colos, et là, peut-être que vous n'avez pas la réponse, je vous demande pas d'avoir la réponse, hein, quand nos animateurs nous demandaient de faire des randonnées, c'était une tanasse. Ça nous saoulait, alors que j'adore votre livre, parce qu'on va voir, restez avec nous, ça va être passionnant, tout l'intérêt, le bien-être et tout ce qu'apporte des marches, des balades, parce que la randonnée a le vent en poupe, n'est-ce pas, à la côte en franchit les adultes
c'est,
en ce moment. Vous avez noté à un moment donné des premiers chapitres, combien il y a de gens qui sont randonnés en 5,5 millions, je crois, de mémoire,
c'est énorme, et donc il y a un engouement... donc au niveau de la marche, ouais. C'est réel.
Ouais,
donc
ouais.
On le voit au niveau des adhésions dans les clubs. Alors moi, c'est vrai que je propose un petit peu quelque chose de différent. Alors j'ai accompagné des seniors pendant des années. J'ai accompagné des groupes de seniors dans la forêt. Et donc j'essayais un petit peu d'introduire un petit peu ce qui m'intéresse maintenant d'une façon beaucoup plus présente. Et c'est-à-dire c'était d'arriver à faire silence. Et c'était très compliqué parce que justement hier j'étais invité dans une librairie à Paris, et donc j'échangeais avec des personnes, et j'avais un monsieur qui me disait, mais je me suis écarté d'un groupe parce que les gens parlent tout le temps, et donc c'est insupportable, et du coup, au bout d'un moment, les personnes vont vous rejeter parce que ils pensent que vous pensez du mal d'eux parce que vous ne dites rien et que vous n'avez pas envie de parler et de communiquer. Et c'est vrai que très souvent, la marche est devenue un peu un déversoir relationnel. Et donc, je m'excuse auprès des gens qui ont l'habitude parfois de faire des marches. Et c'est vrai que dans la randonnée, il y a quelque part le fait de mettre un petit compteur dans sa tête et j'avale les kilomètres comme j'avale les actions à la bourse quelque part. Et voilà. Et donc, moi, ce que je propose dans ce livre, ce sont des marches qui sont des démarches de l'esprit et qui amènent le corps à se détendre, à se régénérer et qui amènent, je dirais, vraiment une autre optique dans ce rapport à la marche qui n'est pas que physique, simplement pour s'épuiser ou simplement pour rencontrer des gens. Voilà, on vient dans la marche un peu pour comprendre le rapport qu'on entretient avec son propre corps, avec ses propres pieds.
Et alors, Alain, c'est les débuts du livre, hein, un des premiers chapitres, c'est quelle préparation à la marche? Vous parlez de préparation à un moment donné.
Tout à fait. Ouais. Alors, la préparation, en fait, c'est vrai que la marche, elle demande une forme de souplesse. Moi, je marche jamais avec des chaussures de randonnée parce que ça bloque le pied. Et je préfère avoir même des tennis. Et donc, j'ai fait l'expérience, même en montagne. Hein, et j'aime sentir même les pierres sous les pieds. C'est-à-dire que à ce moment-là, mes pieds deviennent vraiment comme des organes de connexion avec la terre. Hein, comme je dis, la terre nous porte. Mais la terre nous supporte surtout.
Elle nous supporte.
Voilà. Et donc ça c'est très important, c'est-à-dire que on est ami avec la terre. Et à ce moment-là, on est dans une forme de souplesse. Donc les exercices de préparation, c'est ce qui va permettre, par exemple, simplement de pouvoir s'accroupir. Hein, on essaie de mettre les coudes à l'intérieur des genoux, accroupi. On reste dans cette position. Hein, et donc on peut jouer avec cette position de façon à assouplir. Alors c'est vrai que je vais entendre tout de suite les gens. Ah, mais j'ai du rhumatisme. Moi, j'emmène des seniors actuellement. J'en fais faire des exercices. Certains exercices très simples et on arrive à retrouver une souplesse parce qu'on chauffe le corps. Et donc ça va être très important avant de marcher de pouvoir chauffer le corps. Ensuite,
donc il y a une sorte d'échauffement.
Tout à fait.
Ouais, d'accord.
Et puis après, c'est la respiration. Les gens ne respirent
c'était
pas.
C'était ma question d'après. Quelles sont les différentes techniques de respiration? Il y en a plusieurs dans votre livre.
Oui, tout à fait. Alors,
vous parlez à un moment donné de la cohérence cardiaque, n'est-ce pas? Qui est une importante, oui.
Et en même temps, on va utiliser des exercices de yoga. Donc, parce que comme vous le savez, j'ai écrit plusieurs ouvrages.
Oui,
et
vous
sur
êtes
le
aussi
yoga
un spécialiste du yoga.
Et le yoga des yeux. Et donc, on va utiliser cette respiration qui va permettre d'oxygéner le corps, mais en même temps d'être raccord, encore à corps, avec son corps.
Ah, c'est très beau.
Et ça, c'est vraiment très important parce que c'est la respiration qui nous porte et qui nous donne ce souffle qui fait qu'à un moment donné, on n'est plus dans la marche, je dirais, avec le kilométrage dans la tête, mais on va être dans, je dirais, dans le fait d'apprivoiser son rythme cardiaque.
D'où la cohérence cardiaque.
Absolument.
Alors, je vous propose, chers amis auditeurs, de passer une page musicale, restez avec nous, c'est passionnant, vous allez voir, il y a énormément de chapitres qui vont vous parler de différents types de marches. Restez bien sur IDFM, à tout de suite.
Sans témoin, sans personne.
Je marche seul de Goldman. Chers amis, vous êtes toujours avec Christophe Médici dans l'attitude positive sur 98.0, la radio du bien-être. Et justement, pour le bien-être, nous sommes en train de parler d'une activité humaine qui fait beaucoup de bien avec Alain Pénichaud, l'art de la marche, qui est lui qui commet ce livre chez Marie Claire, aux éditions Marie Claire, éloge de la lenteur. Alain, nous en étions à ces histoires de marche et j'aimerais qu'on développe encore plus et que vous nous parliez des différents types de marche, notamment une que beaucoup de gens connaissent, vous allez l'expliquer. Qu'est-ce que la marche nordique?
Alors, la marche nordique est une marche qui se pratique avec des bâtons et qui va permettre de travailler en fait le haut de la poitrine, donc à l'aide des bâtons. Voilà, on utilise un petit peu comme au ski en fait, comme du ski de fond.
Ah oui, d'accord.
C'est comme le ski de fond, sauf que il y a pas de neige, il y a pas de raquettes, et donc on va utiliser simplement les bâtons, et donc on va respirer en tenant ces bâtons, et donc on avance en utilisant ces deux bâtons, ce qui permet une oxygénation maximale.
D'accord.
Au niveau de la zone de la poitrine, et c'est vraiment une marche chantée par excellence.
Alors vous dites au détour d'un des premiers chapitres de votre excellent ouvrage, il s'agit de bien définir sa marche. J'ai trouvé ça très intéressant, mais pour les auditeurs d'IDFM et de l'attitude positive, qu'entendez-vous par là? Ça veut dire quoi, bien définir sa marche?
Alors, c'est-à-dire que vous avez des gens, en fait, entre la marche, la balade, la flânerie, vous avez des degrés différents. Il y a des gens qui sont des randonneurs, qui sont, on va dire, dans la marche sportive. Hein, donc, il y a aussi de la marche utilisée vraiment comme un sport. Hein, c'est-à-dire que, donc, moi, par exemple, personnellement, je marche très très vite et parce que ça.
Donc ça, c'est une marche très active, très sportive,
très sportive. Ouais, ouais. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, il y a des gens qui souhaitent marcher à leur propre rythme. Donc, il y a vraiment une capacité corporelle, bien évidemment. Hein, et donc, c'est voir, à un moment donné, définir sa propre marche, ça va être aussi le fait de comprendre qu'est-ce qu'on veut dans une marche, est-ce qu'on recherche quoi, est-ce que on a juste besoin d'être en contact avec un groupe de personnes, est-ce qu'on a juste besoin de s'occuper un moment. Ou est-ce qu'il y a une démarche, effectivement, peut-être plus profonde, qui peut être simplement de comprendre le fait d'être seul, de pouvoir méditer.
Est-ce qu'il faut forcément une destination, se fixer un objectif en disant, allez, au bout de la marche, on va découvrir telle chute, telle cascade, ou tel, peut-être, monument, n'est-ce pas? Enfin, il y a un aboutissement, voilà.
Voilà, alors, effectivement, vous avez raison de me poser cette question, parce que hier, on en parlait, justement, avec un auteur très
oui, intéressant. Vous étiez avec lui, mais peu importe, voilà. C'est vous qui êtes avec nous aujourd'hui.
Et voilà, et en fait, on évoquait le fait de l'objectif.
Oui, c'est ça.
C'est vrai qu'un objectif est très porteur.
Par ça exemple, peut être porteur.
J'avais fait un livre aux éditions Lanor qui s'appelait Marche et méditation, et donc j'ai interviewé les gens au départ du Puy. Donc il y a
Puy en Velay.
Le Puy en Velay.
Donc c'est un des endroits où c'est un des passages du chemin de Saint-Jacques de Compostelle à la Pénichaud. Et d'ailleurs il y a une très belle basilique en haut du pic
qui est magnifique.
Qui est magnifique. Ouais.
Et puis le pic, la chapelle Saint-Michel.
C'est magnifique, c'est magnifique.
C'est très beau.
Il faut y aller, mesdames et messieurs auditeurs.
C'est la Rome auvergnate.
Allez au Puy en Velay.
Mais c'est très très beau. Et en fait j'ai interviewé les gens et j'ai essayé de comprendre leur motivation, et donc il y avait vraiment différentes motivations. Donc la singularité de la marche, c'est de découvrir sa propre marche, qu'est-ce que l'on veut dans la marche, qu'est-ce que l'on souhaite transformer, et a-t-on besoin d'un objectif? Parfois non, parce que si on est un peu aventureux, je dis pas aventurier. Vous savez, au 19e siècle, la marche était le seul moyen, parfois, pour découvrir des terres où on, impraticables. Le Kilimandjaro, par exemple, il y a eu des romans, il y a eu des livres où les gens traversaient la jungle et ils savaient pas comment ils allaient arriver. Enfin, les gens prenaient des risques énormes. Hein, donc, il y avait l'écrivain Soro que j'évoque.
Je crois qu'on va y venir parce que c'est vers la fin du livre. On parlera de la marche et des grands auteurs et des artistes.
Oui,
un peu plus tard, mais là continuons avec ce que vous développez qui est passionnant, et peut-être que je vous posais une autre question qui est importante finalement pour les gens qui vont continuer à marcher ou qui commencent, les béotiens. Vous dites bien qu'il y a quand même une préparation aussi qui est très importante, vous aviez parlé des pieds il y a quelques minutes, il faut préparer ses pieds et faire attention à ses pieds. Est-ce que vous pourriez aider nos auditeurs à ce
alors,
sujet?
Alors moi je me masse les pieds avant de partir.
Ouais.
Et donc je vais utiliser une huile, et puis voilà, je masse les pieds, je trouve que c'est très bien, ça met vraiment déjà dans un état d'esprit.
Oui.
Et puis je discute avec mes pieds en fait quelque part. Hein. Je prends mon pied.
Vous n'êtes pas con comme un pied.
Non, j'évite, parce que les pieds ne sont pas cons.
Et donc, les pieds ne sont pas cons d'ailleurs. C'est tellement pas con un pied que dans la culture chinoise, chers amis auditeurs, et vous en savez plus que moi, Alain Pinichou, là-dessus, vous allez pouvoir nous éclairer, on dit qu'il y a tout le corps dans le pied, si je ne m'abuse. Tous les organes à différents méridiens, différents points d'acupuncture, n'est-ce pas, sont dans le pied. C'est pour ça que Alain Pinichou, je dis, c'est pas une nepsie que je raconte.
C'est connu dans la réflexologie plantaire.
Voilà, c'est ça.
Et ce qui va être intéressant là-dedans, c'est de comprendre que quand le talon se pose sur le sol, donc c'est toute une marche aussi que je décris qui s'appelle le kinin.
Le kinin, qu'est-ce que c'est?
Alors c'est tiré du aïkido et c'est une marche méditative qui permet de prendre conscience de son pied, du rapport à la terre, du souffle et de ce rapport le rapport du pied avec la terre. Et donc on va poser en fait la pointe des pieds, le talon va se poser et à chaque fois on est dans une forme de conscience, dans la façon de développer le pied. C'est un petit peu comme les enfants qui travaillent le pas de souris.
C'est le pas de souris?
Vous savez, on mettait un pied devant l'autre, et donc on disait pas de souris, pas de géant. Je pense que vous n'avez pas été un enfant, Christophe.
J'en suis toujours un, très cher.
D'accord. Donc je vous apprendrai à faire le pas de géant et pas de souris.
Très bien.
Et donc c'est un pied devant l'autre, et ce qui permet à ce moment-là de rester dans une approche très minimaliste du corps. Et donc il y avait un maître japonais, un maître zen qui était dans le 14e arrondissement et qui faisait pratiquer cette marche qui tirait du aïkido et qui est une marche vraiment de concentration. Et donc on le sent dès qu'on pratique 10 minutes, un quart d'heure cette marche. J'ai eu la chance de pouvoir la pratiquer avec un groupe en Normandie d'ailleurs, avec des moines zen. Donc dans un domaine qui s'appelle Shenyu, que
oui, je crois que je connais. Comment ça s'appelle, Christelle Cablan qui a créé cet endroit. Oui.
Tout à fait.
Il y a différentes techniques.
Et donc elle est venue
à IDFM. On l'avait invitée l'année dernière. Au moment de l'inauguration de son lieu, figurez-vous. C'était
Très
à peu près il y a un an, jour pour jour. Et on avait présenté l'inauguration. Elle était venue présenter l'inauguration.
Voilà.
De son lieu.
Et donc il y avait des moines zen qui étaient venus. Et donc je leur ai
donc
fait
c'est
faire
vraiment dans la région. Hein, c'est à la lisière du Val d'Oise, chers amis auditeurs. Si un jour où
c'était à
voir.
Une heure de Paris.
C'était mais c'est vraiment à la lisière du Val d'Oise, c'est tout près du Vexin et c'est pas loin du Vexin et ça s'appelle Shenyu, n'est-ce pas Alain
hein,
c'est ça. Il y a de belles choses qui s'y font là-bas.
Hein. Oui, magnifique. Ouais. Et donc justement, elle travaille la médecine chinoise, mais c'est vrai que le pied va être c'est la zone réflexe de tous les organes du corps.
Alors Alain, c'est intéressant entre cette époque de vous rappeler, chers amis auditeurs, et vous Alain de mon livre Homo Connecticus, comment maintenir une haute qualité relationnelle à l'ère du numérique, un best-seller hein, depuis 5 ans. Vous m'avez vu aussi à la télé en parler, à Télématin, au JT de France 2 et sur tous les plateaux de télé, parce que Homo Connectus, je suis l'auteur de ça, de la naissance à la mort. C'est vrai qu'en cette période d'Homo Connecticus, on est toutes et tous devenus des drogués, et je pèse mes mots. Dernière étude en date, chers amis auditeurs, nous passons en moyenne, vous êtes prêts là, 4h48 sur l'écran de nos portables, téléphones portables. Oui, mais on regarde ça, on dit, allez, ça fait que 5 heures dans une journée. Multiplié sur toute une vie, ça va faire 11 ans, chers amis. On est, et je pense que ça va être exponentiel. On peut imaginer, Alain Pinichou, et c'est la question que je vous pose, que, comme je le propose, on peut faire des mini digital détox grâce à une marche dans la nature, Alain Pinichou.
Oui, alors on va parler de bain de nature d'ailleurs.
Oui.
Et vous savez que 90 minutes en forêt, en fait, régénère le système immunitaire.
Ça, il faut le dire. Parce que ça s'appelle la sylvothérapie.
Absolument.
Thérapie de la forêt.
Ouais. Et
ça régénère le système immunitaire.
Le système immunitaire, donc.
C'est en 90 minutes.
En 90 minutes.
Et pourquoi cela?
C'est parce que je pense que ce sont les connexions que le corps établit avec un environnement suffisamment oxygéné, et en même temps je pense qu'il y a un rapport au silence, il y a un rapport à la respiration, il y a un rapport à tous les éléments qui construisent notre système immunitaire, qui dépend du système nerveux. Donc tous ces éléments qui vont faire que, dans la marche, ce qui est très intéressant, c'est le rythme. Et dès qu'on est en rythme...
Pourquoi?
Parce que nous sommes des êtres de mouvement, nous sommes des êtres de rythme, de cadence, et c'est vrai que même si, à un moment donné, on peut associer l'immobilisme par rapport au mouvement, hein, et donc là, c'est le début de la méditation, justement. Mais le corps a besoin de mouvement.
Est-ce que les techniques dont parlent les Américains, parce que je l'ai fait, moi, j'ai acheté ça, chers amis auditeurs, je vais vous faire une confidence chez Decathlon. J'avais entendu qu'ils faisaient du mini jumping sur des mini trampolines. Et que, ce qui est intéressant, c'est jump, on oublie qu'en latin, résiliare veut dire rebondir. Et résilience, c'est la résilience. Donc quand vous dites que le rythme et le mouvement fait du bien à l'âme et à l'humain, eh bien, les Américains disent que quand on est en dépression, 2 à 3 fois par jour, faire 2 minutes de jumping sur un mini trampoline, c'est très bon pour le mindset, pour l'état d'esprit.
Tout à fait.
Et donc moi, j'avais acheté, mais je rigole et en même temps, bah non, j'ai pas honte, ouais. Parce que vous dites que c'est pas si con.
Parce que si vous voulez...
du mini trampoline 2-3 fois par jour. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain Pénichaud?
Non, je pense que, si vous voulez, bon, par exemple, moi, je saute à la corde.
Donc c'est dans le même esprit.
C'est dans le même esprit. C'est-à-dire que vous êtes obligé de sauter, vous avez votre corde, un petit peu comme dans la boxe. Alors, je le fais moins vite, que dans la pratique de la boxe. Et donc, c'est un training, finalement, hein, pour amener à la boxe. Mais, je trouve, là, vous avez une augmentation du rythme cardiaque, qui fait que si vous pratiquez le fait de sauter à la corde chaque jour, vous allez, vivre très longtemps, parce que, ça renforce tout le système cardiovasculaire, donc vous allez évacuer toutes les mauvaises graisses. Hein, donc ça, c'est très important à comprendre. Donc le rythme, la cadence.
Combien de temps faut sauter à la corde dans la journée ?
Moi, pas plus de 10 minutes.
Mais déjà, c'est énorme, 10 minutes de saut.
Oui, mais pas plus. Et encore, moi, je saute 100 fois. Et puis après,
vous
je recommence.
100 fois.
100 fois. Puis après, je fais des pompes. Et puis ça fait partie. Et puis après, des exercices de respiration où je travaille sur des exercices de yoga.
On peut leur proposer d'aller fois de sauter à la corde 100 fois et de faire 2 minutes de mini trampoline. Se dit en passant,
oui,
sans faire
super.
De pub dans les magasins qui vendent des trucs de sport.
Bien sûr.
C'est 45 euros, hein, mini trampoline. Hein. C'est pas des millions. Hein. Oui. Le mini trampoline, il est rond. Il fait 1,50 m de circonférence à peu près.
Il faut faire attention de pas sauter trop haut.
C'est ça. Mais c'est pas cher du tout.
Ouais, ouais, bien sûr.
Et on peut y penser que c'est des médicaments.
Ah, tout à fait.
Une corde à sauter, ça coûte 3 euros, hein, 10
oui,
euros.
C'est pas cher du tout.
Et un mini trampoline, bah, ça vaut des antidépresseurs.
Et la respiration, les exercices de respiration qu'on peut pratiquer avec le pranayama comme en yoga, où on bouche une narine et on expire par l'autre narine.
Ça, c'est les respirations.
Donc là, on va calmer le cerveau. Hein.
Ouais.
Alors moi, j'utilise beaucoup des exercices pour calmer justement le nerf vague. Actuellement, la théorie, si vous voulez, polyvagale est très 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 à la mode. Enfin, on va dire ça comme ça parce qu'elle existe depuis tout le temps. Mais cette théorie qui permet vraiment de transformer le stress en bonne énergie va être essentielle, surtout dans notre société. Et vous parliez tout à l'heure de cet homo connecticus, mais c'est vrai que par exemple, les 10 000 pas qu'on nous conseille de pratiquer chaque jour pour le cœur, alors moi je vois des gens avec des podomètres, et donc ils me disent « Ah mais j'y arrive pas, je suis qu'à 5 000 ou 6 000. »
Mais il manque 4 000.
Ah, il manque 4 000. Mais...
bon, Alain, si vous voulez bien, c'est passionnant, mais on va passer une page musicale et on va continuer sur d'autres chapitres à égrener votre livre. Restez avec nous, vous êtes sur IDFM, vous y êtes bien, on y est bien, un peu comme dans une forêt. Et on se retrouve pour suivre encore la marche de Monsieur Pénichaud.
Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade. Mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu? Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes. C'est un enfant, il te ressemble un peu. Je viens lui chanter la balade. balade, la balade des gens heureux.
Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux.
Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. Je viens te chanter la balade des gens heureux.
Je viens te chanter la balade des gens heureux.
Roi de la drague et de la rigolade, rouleur flambeur ou gentil petit vieux, je viens te chanter la balade des gens heureux.
Je viens te chanter la balade des gens heureux.
Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut. Tu viens de chanter la balade des gens heureux.
Tu viens de chanter la balade des gens heureux.
Et oui, la balade des gens heureux, nous dit Gérard Lenormand. Qu'est-ce que c'était une belle chanson. Vous êtes toujours avec Christophe Midici sur IDFM 98.0, toujours dans l'attitude positive. Et Alain Pénichaud nous parle de l'art de la marche. Et nous avons en ligne un homme qui est responsable d'ailleurs d'un collectif qui s'appelle le collectif, il va nous expliquer ce que c'est d'ailleurs, des sans étiquettes, qui prépare et propose pendant quelques semaines un événement. Kamel Amrieux, vous êtes avec nous. Bonjour Kamel.
Oui, bonjour à vos auditeurs et auditrices.
Ravi Kamel, vous êtes le bienvenu sur IDFM. Dites-nous Kamel, d'abord qu'est-ce que c'est ce collectif des sans étiquettes?
Eh bien, écoutez, c'est un collectif qui s'est créé maintenant il y a quelques années parce que en fonction d'une appartenance ethnique ou autre, on nous mettait dans une boîte. Alors forcément, à un moment, dans une boîte politique, c'est-à-dire où vous êtes un homme de gauche ou vous êtes de droite, etc. Moi, je suis un citoyen lambda, sans étiquette politique, mais pas idiot utile de la République. Donc, au fur et à mesure où on venait vers moi en nous mettant dans une case, en me mettant, mais d'autres aussi, eh bien, ce terme, les sans étiquettes, le fait de le répéter sans cesse, etc., j'ai fini par le déposer et puis monter un collectif qui s'appelle les sans étiquettes, qui ne sont pas sans éthique d'ailleurs.
Ah, vous voyez, c'est très joli.
Voilà. Et croyez-moi,
qu'est-ce qui va se passer, Kamel, le 18 juin 2023, Kamel, justement, avec votre collectif, quelque chose qui tourne autour, justement, pas forcément des marches, mais d'une balade. Qu'est-ce que vous faites le 18 juin 2023? Racontez aux auditeurs de l'IFM.
Alors, le 18 juin, c'est une invitation qu'on lance à l'ensemble de la population, tout simplement pour à la fois rendre hommage à tous ceux qui se sont mobilisés l'été dernier, vous savez, durant les incendies de forêt, et puis de cette volonté qui avait à un moment été envisagée de mettre au chômage plus de 500 agents de l'ONF. Par extension, on a eu cette réflexion de se dire, ben, il serait intéressant, et c'est ce que j'avais promis en rencontrant ces gens à Rémoulins, les agents de l'ONF, de dire que c'était bien plus vaste que ça et qu'il fallait marquer un soutien. Donc ce soutien, c'est tout simplement de se dire qu'à Paris, dans la région parisienne, eh bien, de proposer de faire une balade, non seulement pour soutenir l'ensemble de ces personnes, mais par extension, les gens qui sont dans la santé, tous ces milieux qui sont très importants, qui donnent beaucoup de leurs personnes, et bien évidemment, le fond, la trame de tout ça, c'est d'être proche à la fois de la nature, de mener les actions nécessaires pour notre climat, et voilà. Donc,
alors,
toutes
une balade
ces idées
qui partira d'où à où, Kamel Amrieux?
Alors, c'est une balade qui va partir du bois de Boulogne, parce qu'on a deux bois, du bois de Boulogne au pied de... au pied du lieu où se trouve Good Planet, qui est un lieu animé par
Good Planet, ouais,
voilà,
c'est ça,
ouais. On va être au pied et non pas à l'intérieur, et nous partirons du bois de Boulogne, traversant tout Paris ce 18 juin, qui est un dimanche, au bord bords de Seine, faisant une 6 ou 7 haltes rendant hommage à une femme ou un homme qui a marqué par son action humaniste notre histoire. Et nous irons comme ça jusqu'au bois de Mosène, c'est-à-dire d'un bois à un autre, en balade, familiale, sans drapeau, sans rien du tout, des gens lambda, des citoyens lambda. Et voilà, c'est le maître mot. Et je veux rajouter à ça que cette action, cette balade appartient à tout le monde.
D'accord. Donc Alain, il n'y a Pénichaud, pas de vous de allez y participer, je crois.
C'est attendez, tout simplement Kamel, de faire écoutez-moi. Union.
Allô, Kamel.
Oui,
je vais poser la question à Alain Pénichaud, d'accord. Donc Alain, vous allez participer à, je crois, à cet événement de mis en place par le collectif, n'est-ce pas?
Alors oui, on a vu avec Kamel, éventuellement, si ça peut s'organiser, donc je serai au départ, où je proposerai un petit peu tout ce que je vous ai évoqué avant, c'est-à-dire comment on prépare une marche, à travers des mouvements, à travers peut-être aussi un massage des pieds, hein, pour chauffer un petit peu, donc avec des produits que nous utiliserons pour se préparer si les gens ont envie de pratiquer certains exercices aussi de respiration.
Alors Kamel, vous êtes très content de la présence d'Alain Pénichaud, je suppose.
Non, mais je suis ravi de... Je suis ravi de l'engagement d'Alain, qui est un type super avec qui on a échangé maintes et maintes fois, et on est vraiment dans une ligne comme ça qui est celle de voyez, de cette ouverture d'esprit auprès des uns et des autres, et d'amener les gens à se dire que voilà, il nous reste beaucoup de choses à faire, il faut inverser un peu le process actuel et se dire que les gens chez eux, les gens lambda, comme j'aime me définir également, peuvent faire des choses et on n'a pas nécessairement besoin d'être ici ou là, c'est-à-dire dans un parti politique. La société civile existe et c'est à nous de démontrer qu'elle existe véritablement pour de belles et bonnes actions au profit de tout le monde, voyez.
Alors, d'intérêt général. On m'a dit en off que vous étiez berbère, je crois, Kabyle berbère, c'est ça, n'est-ce pas, oui. Kamel? Figurez-vous que moi, pendant 10 ans, j'ai travaillé à Berber TV, donc je vais vous dire Azoul,
Azoul Flaoun, Azoul à tout le monde.
Et peut-être vous pourriez venir aussi, parce que j'ai encore des amis qui animent des émissions à BRTV, et on pourrait vous inviter dans une des émissions dans lesquelles je suis chroniqueur, à parler de votre marche à tous les berbères de France.
Alors, mon cher, on va éradiquer ce terme de marche, on va garder la balade, parce que derrière la balade,
vous préférez
d'amour.
Balade, vous, hein, vous préférez
et
balade.
Derrière la balade, il y a beaucoup d'amour, ouais. Et c'est véritablement l'amour étant plus fort que tout. Eh bien, moi, j'en ai pris le parti avec tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui.
Donc, c'est une balade à laquelle Kamel Amériou vous invite, chers amis auditeurs, et non pas à une marche. Volins nolins, Kamel, que l'on
merci.
Fasse une balade,
merci
que
infiniment.
L'on marche, on marche quand même avec nos pieds, et c'est pour revenir recentrer sur notre émission, hein, d'accord. Et puis n'oubliez jamais, et on va vous remercier, que les marches ont été dans l'histoire de l'humanité des choses ou des révoltes qui ont été libératrices. Je pense notamment à la marche de Gandhi, c'était pas rien. Et je pense aussi à, dans les années 80, à la marche des beurs.
Dont absolument, auquel j'ai participé, mon cher.
Ben, moi aussi, et j'ai l'homme qui avait fondé le MRAP, paix à son âme, qui était un ami de mon meilleur ami Majid Siosin.
Mouloud
Achour, ça nous permet de lui faire de là où il est un petit coucou, hein, voilà, qui est malheureusement mort d'un cancer du cerveau. Et voilà, donc c'est pas rien les marches non plus. On vous embrasse, Kamel.
Merci, et moi je vous embrasse. On rassemble l'ensemble des auditeurs.
À bientôt.
Merci à vous.
À bientôt.
Et à bientôt.
Au revoir.
I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. Passing home.
I'm sailing, nous dit Rod Stewart. Et oui, la vie, c'est marcher, la vie, c'est le mouvement. Chers amis auditeurs, vous êtes toujours avec Christophe Midici sur IDFM dans l'attitude positive. Et nous avons la chance d'être avec Alain Pénichaud, qui est vraiment un grand penseur, quelqu'un qui est dans l'humilité, qui travaille sur lui et qui vous aide à mieux comprendre l'art de la marche grâce à son nouveau livre chez Marie Claire, enfin, qui a quelques temps, mais qui est un livre vraiment passionnant. Alain, j'aimerais qu'on avance dans votre livre, parce qu'à un moment donné, la question que j'ai envie de vous poser, c'est en quoi la marche peut-elle être un outil de connaissance de soi, hein, au sens du connais-toi toi-même socratique.
Je répondrai simplement par le fait que la marche nous ramène justement, vous le disiez, à une forme. C'est quoi? C'est les pieds qui avancent, c'est la respiration, on est un tas d'os, de muscles, de tendons. Et là, d'un seul coup, on est ramené à notre propre rythme, à notre propre vitesse, et quelle qu'elle soit d'ailleurs. Hein. Donc moi, je suis un lent, mais je marche très très vite, et j'adore marcher vite.
Pourquoi vous dites que vous êtes un lent?
C'est parce que j'ai une tendance dans la vie à avoir toujours un temps de recul et puis avoir souvent même à l'école j'étais lent.
Mais par contre vous marchez vite.
Et je marche très vite.
Et voilà. Comment vous expliquez ce paradoxe ?
C'est un paradoxe. Et moi j'adore les paradoxes.
On dit donc, que la vérité est dans le paradoxe.
Voilà. Ouais. Et donc je pense que c'est ce qui se produit entre deux choses. Et donc voilà, donc j'aime marcher vite et donc j'ai eu des expériences étonnantes avec la marche où vraiment même sur des sentiers très difficiles où je pouvais vraiment presque courir hein, tout en marchant, c'était une forme de marche-course. Et donc c'était vraiment au niveau corporel, c'était vraiment une expérience de l'esprit.
Et vous parlez à un moment donné d'une marche, Alain, qui s'appelle donc une sorte de marche active, qui permet d'ailleurs même de se définir de nouveaux objectifs dans sa vie, Vous pouvez en parler à nos auditeurs.
Oui, alors en fait c'est très simple. On va se fixer en fait un objectif avant. On écrit sur un papier.
Oui.
Et puis ensuite on va faire sa promenade, sa balade, et donc on va effectivement laisser tomber un petit peu ce qu'on a marqué sur le papier, et donc on cherche quand même la résolution, non pas un objectif, hein, je cherche pas à aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, je cherche pas à aller jusqu'à New York.
On va essayer de résoudre quelque chose.
Voilà, ouais. Le cerveau, on lui donne un os, quelque part.
Donc c'est un peu la loi de l'intention, on fixe une intention, oui, et ça va bouger là-dessus. L'idée, elle est quand même que, c'est intéressant, parce que vous allez voir, le livre est très riche, hein, et il est fourni d'énormément de chapitres avec des visions, et c'est ça que j'ai aimé dans votre livre, c'est qu'il a une dimension holistique, Alain. On parle de plein de choses autour de la marche. Et à un moment donné, vous parlez, alors moi j'aime beaucoup Thich Nhat Hanh, Père Son Âme, qui est parti il y a peu de temps, qui avait un lieu très beau qui s'appelait Les Pruniers, hein, dans le sud, et lui, il faisait faire, et vous en parlez, des marches méditatives, de la méditation en marchant. Alors expliquez aux auditeurs de l'attitude positive, qu'est-ce que la méditation en marchant?
Alors écoutez, je vais simplement vous donner une expérience. Donc c'était je m'occupais des conférences d'un auteur qui sortait au seuil dans les années 90, qui s'appelait Jeanne Guéné, qui avait écrit Le Grand Passage et différents ouvrages sur sa quête spirituelle. Donc c'était une vieille dame qui avait plus de 80 ans, mais qui était très très étonnante. Et un jour, nous étions à peu près, je crois, une cinquantaine de personnes. Donc nous avons fait cette marche proposée par
Thich Nhat Hanh.
Voilà, j'ai toujours du mal à le prononcer.
Très grand auteur.
Oui, bah c'est l'équivalent du Dalai Lama, hein, pour les Vietnamiens, hein, pour le bouddhisme.
J'espère pour, je vais pas développer.
Voilà.
Le Dalai Lama, donc, qui en ce moment défrait la chronique.
Voilà. Et puis, alors ce qu'on faisait, c'est qu'on avançait, on se tenait les uns les autres, et en fait, on avançait avec des petits pas. Et nous étions comme un grand corps collectif, à peu près d'une cinquantaine de personnes. Et c'était extrêmement puissant, parce que d'un seul coup, on était obligé de s'adapter un peu au rythme des personnes qui marchent moins bien, qui sont plus souffreteuses, on va dire.
Vous voulez dire que ça crée une espèce d'état d'esprit collectif? Il y a quelque chose qui se crée au sens d'un...
Voilà, alors là on rentrait dans un état de méditation collective.
Ouais, hein, vraiment.
On va dire un égrégore.
Un égrégore secret.
Et d'accord. C'était très très impressionnant parce que c'est vrai que on avait un sentiment d'appartenance au groupe alors que je connaissais personne. Et à la fin de cette marche, on avait l'impression d'être tous reliés les uns aux autres. Et donc les échanges étaient très intéressant et très ludique et joyeux. Voilà. Et ça, c'était vraiment une expérience que j'ai trouvée vraiment très, très intéressante. Donc, vous me parliez tout à l'heure comment ça devient un outil de connaissance de soi. Je dirais simplement parce que à travers le respect et la confiance qu'on peut avoir pour soi-même, hein, c'est-à-dire que dès qu'on marche, en fait, c'est qu'on fait confiance à son corps. Vous savez, moi, je travaille avec des seniors maintenant, et je vois les personnes, j'ai fait des ateliers pour éviter les chutes, par exemple. J'utilise d'ailleurs des exercices que j'utilise dans la marche, et donc, pour renforcer cette confiance, parce que quand une personne est tombée d'un certain âge, ensuite, elle a peur de marcher. Et donc, c'est ce qui crée une forme d'immobilité qui va faire que la personne, à 70, à 80, à 90, décline. Et donc là, il faut réapprendre à la personne à marcher autrement. Et donc, moi, j'ai donné des cours avec une mutuelle qui s'appelle Audience. Et donc je faisais des cours sur...
C'est pas
sur...
une émission de placement de produits, hein, la Pénichou.
Non, excusez-moi.
Alors, on va parler de trois autres...
Non, mais c'est parce que c'est la mutuelle des gens du spectacle. Ah, bon, ouais. Voilà. Mais parce que, pour moi, Audience a été très important parce que j'ai pu expérimenter...
Zéro blabla, zéro tracas.
C'est vrai. Mais là, j'ai pu expérimenter vraiment...
MMA.
Voilà. Aimez-moi.
Aimez-moi. On va dire la matmut aussi. Voilà. Dites-moi, vous parlez à un moment donné, alors je ne sais pas si c'est aussi dans la même veine, à un moment donné, vous parlez d'une marche qu'on appellerait la marche sacrée, n'est-ce pas?
Qui est utilisée dans certaines pratiques.
Pouvez-vous nous en parler, la marche sacrée?
Alors, il y a des marches, dans toutes les traditions, on va retrouver des marches qui deviennent des marches sacrées, un petit peu comme les Indiens, les Huicholes au Mexique, où pour bénir le maïs, ils ont à peu près 500 ou 600 kilomètres à pratiquer. Et là, ils vont utiliser le peyote, qui est une plante. Donc, ils se nourrissent plus durant ce cheminement vers la montagne sacrée. Et donc, pour faire une offrande aux dieux et pour bénir, en fait, la culture du maïs, qui est la plante sacrée, bien évidemment, en Amérique du Sud. Hein, et là, ce sont des... Actuellement, on parle de graines oubliées. Enfin, ce sont les graines anciennes. Hein, c'est pas le maïs transgénique, mais ça va être le vrai maïs, qui est de couleur, d'ailleurs, hein, qui est très coloré, qui est très beau, et qui est la base, en Amérique du Sud, de l'abondance en termes de nourriture. Hein, donc... Et donc ça, ce sont des marches sacrées. Donc chez les Indiens, les Navarros...
Vous parlez au moment autour du livre aussi des Maasai.
Alors les Maasai,
justement... Ils sont vraiment un peuple de marcheurs.
Oui, alors c'est suite à la rencontre avec Xavier Perron. Et donc on échangeait à ce sujet. Et donc il a créé un oracle, un jeu de cartes qui est un oracle. Et il propose des stages autour de la culture Maasai. Et c'est très très intéressant parce que ce sont des hommes de la savane, des nomades, hein, qui sont des pasteurs. Et donc ils ont des troupeaux de chèvres. Et actuellement, on leur interdit la traversée de certains parcs parce que, bien évidemment, les chèvres, quand vous avez 50 ou 100 chèvres, elles se jettent sur les arbres et ça déforeste.
Sur la flore.
Ça déforeste.
Alors, donc, petite question, Alain Pénichaud. Tout ça, on voit que au détour de cette activité, qui est quand même peut-être l'activité basique de l'humain, quoi. Évidemment, dès que l'homme a pu se mettre sur ses deux jambes et ses deux pieds, ce qui n'a pas été le cas au début. Hein.
C'est la verticalité.
Il se joue beaucoup de choses. Cette dimension dont on pourrait beaucoup parler, qui est le titre d'un film et d'un roman à la base, qui s'appelle Entre ciel et terre. Hein, c'est notre destin d'être à mi-chemin entre ciel et terre.
Tout à fait.
Et c'est bien l'homme qui marche. Hein,
L'homme debout.
Et alors Alain, pour finir, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, il y a quand même, vers la fin du livre, vous citez énormément d'auteurs, de grands, notamment écrivains, qui ont été des hommes qui ont beaucoup parlé de la marche. Vous avez cité Stevenson en cours de émission, mais vous parlez aussi d'Henri David Thoreau.
Oui.
Et Thoreau qui un jour fait une conférence sur la marche.
Bien sûr. Et donc, et puis il y a surtout aussi John Muir, hein, qui a créé le parc de Yosemite en Californie, qui est ce parc merveilleux.
Magnifique.
Où les arbres ont 400 ans, 500 ans.
Il y a des immenses baobabs, il y a d'immenses arbres, il y a des arbres magnifiques là-bas. Yosemite.
Voilà, ce sont des pins, mais extraordinaires. Et donc, Soro, en fait, marchait 4 heures par jour. Donc, c'était son training, on dirait actuellement.
Ouais, ouais.
Et donc, c'était sa vocation d'esprit. Et donc, il a écrit un livre qui s'appelle En Marche, je crois, d'ailleurs.
Ouh là là, on sent un certain Emmanuel Macron qui a dû pomper Henri Davitto, parce que ça a été le titre du parti, le nom du parti de notre cher président de la République.
C'est parce que donc Soro a été élève d'Emerson, qui était un transcendantaliste. Voilà, et donc je pense qu'il y a peut-être une idée.
Mais vous citez plein d'autres artistes, des grands romanciers du 19e, comme Rimbaud, comme Balzac, comme Théophile Gautier, des gens qui ont beaucoup développé l'art. Et puis aussi, vous parlez des philosophes marcheurs, comme Kant, comme Rousseau.
Bien sûr.
Donc vraiment, le livre, mesdames et messieurs, allez-y. C'est vraiment un très bon livre. Vous allez à chaque fois découvrir beaucoup de chapitres. On peut pas tout voir. Alain, on va vous remercier d'être passé.
Et je dirais juste, c'est un livre à extension, c'est-à-dire avec des exercices pratiques.
Énormément d'exercices pratiques. Voilà. Donc, ce qu'on appelle au State un self-help book, un livre pour s'aider soi-même. Si on a envie un jour de faire un stage avec vous, où est-ce qu'on vous trouve à l'impression?
www.yogaduvisage.com, parce que je suis un spécialiste du yoga du visage, qui est une pratique naturelle, donc basée sur la tête et le visage. Et donc, et puis il suffit simplement de taper mon nom sur Internet. On arrive toujours à me retrouver. Dans un détour de chemin.
On marche vers vous, on marche vers vous, et voilà. On vous trouve. Moi, j'adore cette phrase de Rumi, n'est-ce pas, Alain Pénichaud ? Ce que tu cherches, te cherche aussi. Et donc, si tu vas le chercher en marchant, ce grand sage soufi du XIIIe siècle, finalement, on retrouvera
très, très
Alain.
Beau.
Merci d'être venu.
Merci Christophe, merci aux auditeurs.
Merci aux auditeurs, merci à la réalisation sans qui cette émission n'aurait pu avoir lieu. Et bien, continuez à marcher, parce que c'est certainement en marchant qu'on devient une meilleure version de soi-même. Je vous dis au mois prochain pour un nouveau numéro de Latitude Positive.